but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Donc aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Fraissinet qui est là à côté de moi pour son livre dont nous allons parler ensemble. Bonjour Monsieur Fraissinet.
Bonjour Claire.
Donc, en attendant de parler de son livre, je vais juste vous indiquer une petite information pour samedi 21. À 17h à la médiathèque de Toulouse, au grand auditorium au Red Jardin, nous avons une lecture performance d'Anne Cameron en français et en russe et qui va nous lire des poèmes de Marina Tsvetaeva, qui est une écrivain contemporaine qui est décédée en 1941. Et donc, avis aux russophiles, samedi 21 à 17h à la médiathèque de Toulouse, au grand auditorium, venez nombreux, c'est très intéressant et pour les russophiles, c'est encore plus intéressant parce que c'est en bilingue. Voilà, ça c'était la petite information pour ce samedi dans 3 jours donc. Alors, Monsieur Fraissinet.
Oui.
Vous avez été président de Retina France, l'association qui lutte contre les maladies de la vue, de 1985 à mars 2004, donc ça fait pas mal d'années. Et vous pouvez vous présenter un petit peu hein?
Ben, au niveau de l'association Retina France, bien volontiers. Si je suis rentré dans cette association en 85, c'est tout simplement parce que je suis atteint de rétinite pigmentaire et que j'avais envie de voir la recherche se développer. Autrement dit, le principal de mon action pendant ces nombreuses années a été de créer un comité scientifique, de développer des programmes de recherche et de faire en sorte que la maladie soit un jour vaincue, ce qui n'est pas encore le cas, mais non. On arrive vers des thérapies.
Oui, oui, il y a d'énormes progrès qui ont été faits dans la recherche en ophtalmologie, mais c'est vrai que c'est long, il faut être patient et il faut effectivement beaucoup de fonds.
Voilà, des fonds, des impulsions.
Des impulsions,
également. Oui. Quand j'ai débarqué, si vous voulez, dans ce domaine, il n'y avait pratiquement rien comme recherche.
Oui, ça se faisait plutôt aux États-Unis, je crois.
C'est ça. Mm-hmm. Ça se faisait un petit peu plus aux États-Unis. Maintenant, on n'a rien à envier au niveau ophtalmologie aux Américains. Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, c'est quand même pas la totalité de mon livre.
Non, 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 non. Donc voilà, donc vous avez été président de Retina France, vous êtes aussi, donc vous êtes venu à l'écriture, donc vous avez quitté Retina et vous êtes venu à l'écriture à ce moment-là ou c'était déjà un peu avant aussi,
Non, c'est mon premier livre, effectivement. J'ai eu envie, après avoir quitté Retina, de m'exprimer sur le plan personnel, de savoir en fait si j'avais bien fait, si j'aurais pas pu mieux faire, si j'en avais pas trop fait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais envie d'intituler mon livre « Trop ou pas assez ». Mais ça dépasse largement le problème de Retina.
Oui, 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 tout à fait. Donc, « Trop ou pas assez », mais finalement, le livre s'appelle « Une histoire de présidence au pays de la malvoyance ».
Oui.
C'est vous qui avez finalement changé le titre ou c'est...
Non, c'est moi qui ai changé de titre. Oui. De toute façon, je suis le seul à avoir travaillé sur ce livre.
Oui, oui, oui.
Et j'ai préféré utiliser ce titre... Parce que il y a en même temps mon histoire personnelle, l'histoire donc de la rétinite pigmentaire, mon histoire personnelle, c'est-à-dire le vécu aussi de 60 ans sur Terre.
Dans votre enfance, dans votre adolescence.
Et en plus, l'histoire de Retina, c'est-à-dire que le livre, c'est moitié l'histoire de Retina et moitié mon histoire à moi.
Votre vécu avec la rétinite.
Mmh. Voilà.
Et oui, c'est un livre qui est finalement pas très gros, hein, qui fait 84 pages, qui se lit très bien, qui a écrit avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'émotions retenues des fois, je trouve. Et enfin, moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est pas un gros bouquin qui va ennuyer les gens. Je tiens à le préciser. C'est un livre petit et mais très fourni et surtout, voilà, qui raconte beaucoup de choses intéressantes. Et à la fin du livre, d'ailleurs, il y a des photos en noir et blanc.
C'est l'éditeur qui a voulu les mettre, effectivement, qui rappelle ces photos « 1000 cœurs pour un regard », qui est quelque chose d'important pour Retina France.
Une manifestation, voilà, où on recueille des fonds par le biais de concerts. D'ailleurs, ça s'est terminé il n'y a pas... Enfin, le point crucial, c'était au mois de mars. C'est tous les ans au mois de mars, je crois, d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc on a...
Le premier week-end du printemps.
Voilà, c'est ça. Oui, donc on vous voit avec Michel Fugain, Claude Nougaro, Gilbert Montagnier...
C'est-à-dire trois des 20 parrains, ou des 10 parrains de Retina.
Voilà, et on voit aussi avec M. Jacques Chirac pour la remise d'une...
Alors, Jacques Chirac, c'était pour un entretien avec Bernard Barateau de l'AFM concernant...
Pour l'Alliance des maladies rares.
C'est exact.
Et contre... Et on voit aussi...
Christian Poncelet, c'est tout simplement...
Une médaille, donc, du mérite.
Voilà, c'est un...
D'accord. Donc ce livre, il est édité, donc je rappelle le titre, Une histoire de présidence au pays de la malvoyance. Donc il est édité aux éditions La Bruyère et on peut à Paris, donc on peut se le procurer en allant dans n'importe quelle librairie. En demandant voilà le livre de monsieur Jean-Jacques Fraissinet et la librairie le commande et on l'a très rapidement.
Et le plus simple dans la région, c'est de s'adresser à Pibrac, à City Press. Parce que
je crois qu'il faut aller jusqu'à Pibrac. Non, on peut aller à Toulouse.
Ouais, Toulouse, je le cite étant donné que il en a en stock.
D'accord. Donc Pibrac, Press City, c'est ça?
C'est ça. City Press.
Voilà, City Press. Je dis à l'envers. Excusez-moi. Donc voilà. Donc dans n'importe quelle librairie et même à Pibrac, donc également. Donc pour vous donner une petite idée, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors cet ouvrage aurait pu s'intituler « Trop ou pas assez », comme vient de dire donc M. Fraissinet, tant souvent l'auteur se pose cette question. Ainsi partagé entre la volonté farouche de ne pas se laisser dominer par son handicap et son grand souci de ne pas usurper une place qui ne lui reviendrait pas, il se transforme en un combattant discret mais efficace de la cause des malvoyants. Ce récit est donc aussi bien le témoignage d'une vie que l'histoire de l'association Retina. La diversité des situations décrites et le rythme entraînant de l'écriture tiennent en haleine, le lecteur qui découvre une autre façon de voir la vie. Ça résume bien votre...
Je l'espère. C'est effectivement un message que je veux faire passer, à savoir que l'on peut très bien vivre sans avoir de certitude absolue.
On peut d'ailleurs, est-ce qu'on peut vivre avec que des certitudes? Je ne sais pas.
Oui,
on risque d'être déçu.
Le fait, si vous voulez, d'avoir des doutes, contrairement à ce que l'on croit, n'empêche pas d'agir. C'est surtout ce que je voulais dire. C'est qu'à tout moment... Je me pose la question, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Mais le fait de se poser la question avant ne m'empêche pas d'agir pendant. C'est-à-dire que je suis un petit peu l'adepte de Bergson, le philosophe, qui dit « il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action
oui. ».
Et donc, ça laisse la place au doute.
Tout à fait, le doute m'a fait avancer.
Ou à l'interrogation.
Et je vais lire le petit prologue. Là, le prologue, c'est vous qui l'avez écrit aussi.
Oui.
Donc, je vais lire le prologue, donc qui se trouve tout au début du livre. Donc, c'est tout à fait spontanément qu'un matin, je me suis mise à écrire. Il n'y a jamais eu la moindre préméditation à cet acte. J'étais tout simplement submergée par le ressenti de toute une vie, la mienne. Il fallait que je m'en délivre. J'avais besoin de l'exprimer. Dès les premières pages, je réalisais la présence d'un fil conducteur dans ce que j'écrivais, celui du doute. En fait, c'est lui le véritable moteur de la vie. Les certitudes ferment les portes. Le doute, lui au moins, vous laisse toujours une chance. Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire. Et le prologue est pile dans dans l'expression de ce qu'on vient de dire. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Et la première, il y a un passage qui m'a d'emblée plu pour son côté émouvant, parce que il se rapproche du monde de l'enfance. Et puis ça m'a fait beaucoup sourire. Je vais vous le lire. C'était l'époque des jeux enfantins avec Anne-Marie et Christiane, qui sont vos sœurs,
Oui, jumelles.
Des jeux simples qui consistaient à défaire le dallage de la salle à manger et à le recoller avec du beurre. Alors ça, je veux dire, je n'avais jamais entendu un jeu de cet ordre et ça m'a fait beaucoup sourire. J'ai trouvé que c'était vraiment mignon. Et...
Écoutez, c'est venu spontanément au bout de la plume, puisque j'étais parti pour raconter les années heureuses. Où le petit enfant que j'étais ne savait pas qu'il allait ensuite souffrir d'une pathologie oculaire.
Vous n'aviez rien du tout à cette époque-là. Enfin, ah, rien de, ça ne vous gênait pas à cette époque-là.
Ben non, puis là quand même, c'est à 5 ou 6 ans.
Oui.
Je n'en avais pas conscience. D'ailleurs, on le voit dans le livre, je n'ai pris conscience de mon handicap visuel et auditif que petit à petit, au fur et à mesure qu'il s'est développé.
Mmh. Oui, à l'adolescence, par exemple.
À l'adolescence, pour ce qui est de la vision crépusculaire.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, le champ visuel, etc. Mais j'ai voulu montrer comment on peut avoir une vie normale avec un handicap qui est évolutif, comment, en fait, l'individu s'adapte à cet handicap et finalement arrive à ne pas se laisser submerger par lui. Il vit avec, c'est un compagnon, et il le maîtrise.
Un compagnon forcé, mais bon.
Effectivement.
Mais voilà, et il y a aussi pas mal de passages où vous expliquez comment vous cachez votre
oui.
handicap aux yeux
oui.
des autres.
Là aussi, c'est une question que je me suis longtemps posée, de savoir s'il fallait que je l'avoue ou s'il fallait que je le cache, même maintenant. Tant que je peux, je préfère encore, si vous voulez, ne pas l'afficher.
Vous
si je ne suis pas obligé, ça me permet de garder une personnalité autre que celle d'un handicapé.
Oui, bien sûr. Oui, parce que le regard des gens change de toute façon dès qu'ils voient, il y a par exemple une personne avec une
bien
canne
sûr.
Et une personne sans canne.
Bien sûr. D'ailleurs, le regard des gens change depuis que j'ai écrit ce livre.
Ah oui?
Ah, tout à fait.
Maintenant, les gens vous rencontrent dans la rue. Et...
Ah, ceux qui me connaissent, qui ont lu le livre, sont beaucoup plus attentifs. À mon comportement et mes déplacements, ce qui n'est pas forcément pour moi un plaisir.
Oui, parce que bon, ça, ils pensent vous aider, mais bon, c'est pas forcément
non.
l'aide que vous attendez.
Non. Moi, je préfère effectivement pouvoir aller jusqu'au bout de mes possibilités. Si on agit à ma place, j'ai l'impression d'être une potiche. Et ça ne me donne pas les moyens de m'exprimer.
Oui, d'ailleurs, le handicap, on peut dire que des fois, ça pousse à aller vraiment au-delà de ses limites,
voilà.
de reculer sans arrêt les limites.
Tout à fait. Eh bien, c'est ça que, si vous voulez, que je voulais dire. Et en fait, c'est vous qui l'exprimez. Merci. C'est vrai.
Ça booste, quoi. Hein. Ça
ouais.
fait avancer les choses. Donc, moi, je voudrais lire quelques petits passages que vous allez commenter, si vous voulez.
Oui.
Alors, j'en ai noté un. C'est quand votre père disait, quand tu auras fini de te taper la tête contre les murs, tu trouveras peut-être la sortie. Alors, avec du recul, vous dites, la multiplication de ces formules provocatrices et protectrices à la fois m'a rendu service. Elles m'ont donné l'envie de démontrer que je n'étais pas celui que l'on décrivait. Ce refus d'être catalogué d'office m'a certainement aidé à surmonter mon handicap.
Je le pense. Sur le coup, effectivement, ça m'a gâché un petit peu.
Oui, parce que c'est violent quand même, hein, comme
oui,
phrase.
Oui,
arrête
non,
quand t'auras fini de te taper la tête contre les murs, c'est quand même.
Oui, mais pourtant, c'est un homme qui était plein de sensibilité, d'affection. Et je crois qu'il a bien fait, si vous voulez, de ne pas trop me surprotéger.
Oui.
Ça m'a donné. Si vous voulez, me piquer. Il le faisait sciemment, tout ça l'agaçait aussi, peut-être mon comportement. C'est un gosse qui ne voit pas, et vous ne savez pas pourquoi. Il était maladroit. Donc
oui, parce que lui-même ne savait pas.
Mais
voilà,
non,
donc
non,
à l'époque,
c'est,
voilà,
c'est
personne
l'époque.
Ne savait.
Non.
Donc
non,
voilà,
non.
il comprenait pas
non,
pourquoi
non.
vous.
Il savait pas du
partout,
tout. J'avais une rétinite pigmentaire.
Bien sûr.
Donc il ne voyait que le comportement extérieur de quelqu'un qui était maladroit. Et ça m'a stimulé parce que ça me vexait tellement que ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Je crois que je n'aurais pas fait les études que j'ai faites. Je n'aurais pas eu la vie active que j'ai eue. Si je n'avais pas été piqué comme ça au vif, j'ai l'envie de me rebiffer.
Oui, voilà, ça donne du niaque un peu pour...
Voilà.
Et donc j'en ai un autre, donc c'est dans le chapitre 3, donc qui s'intitule Samy le leurre. C'est les obstacles se multipliaient et se précipitaient sur moi lorsque je déambulais sur les trottoirs, poteaux, poubelles ou détritus divers. Ceux qui m'accompagnaient s'en gaussaient et j'en faisais de même. On mettait cela sur le compte de l'étourderie ou du demi de bière absorbée en trop. Cela faisait partie de mon personnage. Donc c'est dur quand même d'assumer une image qui n'est pas la réalité.
Oui, mais ça vous permet, si vous voulez, de ne pas assumer celle que vous ne voulez pas voir.
Oui, tout à fait. Vaut mieux encore passer pour quelqu'un qui a bu un verre de trop que de passer pour un handicapé.
Voilà. Si vous voulez, je préférais passer pour un idiot, pour un imbécile. De toute façon, je n'avais pas trop de mal avec mon comportement. C'était l'image la plus couramment montrée. Mais je préférais ça plutôt que d'être exclu, si vous voulez, du monde des bien portants.
Oui, c'est quand même dur à assumer, quoi, je veux dire.
J'étais peut-être dur à assumer, je crois que j'étais dur à assumer. Il y a certainement eu des soirs où j'étais triste. Ouais, mais d'un autre côté, ça me permettait d'avoir envie d'aller plus loin.
Toujours, voilà, le recul des limites, d'essayer toujours de faire comme les autres.
Comme les autres, voilà. Même. Et c'est là aussi, si vous voulez, qu'à à force de courir après d'images que je voulais avoir de moi, mais à la fin de ma vie, enfin, à 60 ans...
Elle n'est pas encore finie, hein.
Elle n'est pas encore finie, mais je me retourne et puis je vois que finalement, tous ceux que j'ai connus quand j'étais gosse, quand j'étais étudiant ou au début de ma vie professionnelle, sont peut-être derrière moi. Si vous voulez.
Oui.
Je me retourne un petit peu, je me dis, mais bon Dieu, finalement, t'as peut-être bien fait.
Bah oui, parce que vous êtes arrivé là où vous en êtes c'est là maintenant, et voilà, c'est tout c'est à fait honorable, hein, c'est tout à fait honorable et admirable. Hein. Ouais. Et alors je continue, donc, quand vous apprenez le diagnostic de votre maladie, donc je lis, c'est tout naturellement que je gardais ça, entre guillemets, pour moi. Je n'avais pas envie d'en parler. Par contre, un sentiment bizarre m'envahit, celui de la fin d'une contrainte. Dorénavant, j'avais un alibi intime pour me laisser aller, pour brûler la vie par les deux bouts. J'allais donc essayer d'oublier et d'en profiter. Donc, quand vous avez appris donc, que c'était une maladie incurable, pour l'instant, elle est toujours d'ailleurs aussi.
Et qu'elle allait me rendre
aveugle. Oui.
C'est vrai que c'est un sentiment bizarre. Bon, mais j'ai déculpabilisé.
Déjà
hein, complètement, déculpabilisé. Et puis après tout, ça m'a donné le droit, effectivement, dans ma petite tête, de ne plus avoir à me justifier.
De faire un peu ce que vous aviez envie de faire, sans, voilà. Voilà. Sans
que,
regarder
voilà,
trop les...
De toute manière, la vie, elle allait être de la longueur que j'allais décider, dans ma petite tête. Donc, j'étais devenu libre.
Carrément.
Carrément.
Et alors après, je lis, donc une fois que vous avez appris le diagnostic, donc j'oubliais les moments d'humiliation pour ne retenir que ceux qui me réussissaient, ceux au cours desquels le handicap passait inaperçu, donc la danse, l'intimité à deux, la lecture, la plage. Je privilégiais les discussions en groupe, restreint et rapproché. Elles facilitaient l'audition et la vision. Je pratiquais encore la lecture labiale, j'évitais constamment les situations aggravantes pour mes handicaps, je ne pensais qu'à mes problèmes auditifs et visuels, et pourtant, en même temps, je n'avais qu'une envie, les oublier.
Oui.
Donc, c'est... Ouais.
J'avais toujours cette dualité en moi. Je refusais, si vous voulez, mon état d'handicapé, et en même temps, je ne pensais qu'à lui. Ça a l'air bizarre. Mais même maintenant. Mais maintenant, je ne pense, si vous voulez, qu'à ce que je vois, ce que je ne vois pas. Ça devient une obsession. Et pourtant, je veux l'oublier.
Eh oui, mais bon, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait partie, c'est le compagnon forcé avec lequel on est obligé de vivre. Donc, on peut à la fois, on ne peut pas l'oublier, mais bon...
Là, on est obligé de vivre avec lui.
Voilà. Mais bon, on essaye quand même de l'oublier pour continuer à avancer. Et donc, dans ce même registre, je continue. Malgré ce sentiment d'infériorité, J'arrivais à garder l'envie irrésistible de profiter de la vie. J'adorais me sentir en sécurité sur la terrasse d'un café, comme tout le monde, semblable à tous ceux qui m'entouraient. Donc ça, c'est un point important. On veut absolument être comme les autres.
Tout à fait.
Ne pas être démarqué, ne pas...
Tout à fait, de pas être lâché par le peloton.
Voilà.
Et donc, on reste dans le peloton, si c'est en queue. Mais finalement, à force d'y rester dans le peloton, c'est ce que je voulais dire, on le remonte et puis un jour, on se retourne et on se dit, mais bon Dieu, je suis en tête quand même. Alors qu'on ne croyait même pas être capable de le suivre.
Oui, donc c'est
faut
plutôt
toujours pédaler,
révélateur.
Il faut toujours pédaler.
Il faut toujours pédaler. Donc, il y a un passage à l'armée, justement, où vous dites, lors des rassemblements de nuit dans la cour, là, c'est quand vous cachez, enfin, quand personne ne sait encore ce que vous avez, lors des rassemblements de nuit dans la cour, je n'étais pas le premier arrivé. Là aussi, mon comportement bizarre intrigua très vite. Parce que donc, il faut dire que la rétine pigmentaire, la vision crépusculaire, ça empêche de...
Tout à fait. Donc, je vois rien déjà en milieu crépusculaire, encore moins en milieu obscur, et à la caserne dans laquelle je me trouvais, la cour n'était pas éclairée.
Et oui.
Donc les rassemblements en pleine nuit, ça se faisait assez fréquemment. Donc je suivais mes camarades dans les escaliers, bon là c'était éclairé, et puis quand on est arrivé dans la cour, pouf, il n'y avait plus rien.
Ouais, donc vous arrêtiez, vous saviez
voilà,
pas trop.
Voilà, donc j'étais, si vous voulez, le dernier à rejoindre sa place dans le rang. Et ça donnait lieu effectivement à des remarques
désobligeantes,
des permissions... sucré pour
pour manque pour indiscipline parce qu'on vous a qualifié donc de personne indisciplinée.
Mais pour rien au monde, j'aurais dit que
vous ne l'y voyez pas.
En fait, c'est parce que j'y voyais pas.
Oui,
ça aurait été
encore plus dégradant que de dire que vous étiez indiscipliné.
Tout à fait. Je préférais être indiscipliné.
Voilà.
Tu voulais pas me faire dégrader.
Après, je lis, d'autant plus que j'évitais, donc là c'est dans un autre registre, d'autant plus que j'évitais au maximum de prendre des risques, j'évitais les réunions, sauf celles que j'organisais, c'est donc dans votre début de vie professionnelle, celles que j'organisais moi-même et où tous les détails étaient étudiés, c'est-à-dire contraste, son et support. C'est-à-dire que vous aviez une énergie pour tout préparer, pour ne rien laisser au hasard de façon à être... pas surpris par un événement qui pouvait...
J'essayais au maximum, si vous voulez. Je me souviens des réunions, donc je convoquais mes agents. J'arrivais, moi, la veille, pour bien repérer
les lieux, prendre vos repères,
etc.
Oui. Mmh.
Ensuite, je mettais systématiquement les tables en nu. Et plutôt que d'être, moi, assis au bout de la table, j'étais debout à l'intérieur du U.
Ah, voilà, d'accord.
Ce qui me permettait, si vous voulez, de me diriger vers celui qui m'adressait la parole.
Et
ensuite, ça me permettait aussi de mieux voir tout ce qui se passait autour.
Oui, parce que bon, tout ce qui est chaise et tout, on s'en mêle toujours les pieds dedans. C'est pas, il suffit qu'il y ait des sacs à côté et on trébuche.
Et puis ensuite, je me débrouillais aussi, effectivement, pour baisser les stores, pour ne pas être ébloui, etc. Mmh. etc. C'était important.
Et donc, on va aborder dans la vie quotidienne, là, au chapitre 7, il y a le problème de l'angoisse. Parce que bon, tout ça, ça fait quand même naître des angoisses terribles au fond de soi. Et donc, je lis, je ne parlerai pas de ces innombrables repas pris en commun, l'été, en plein air. Leur début est toujours un enchantement. Chacun s'affaire, plaisante. Pendant que moi, je réfrène l'angoisse qui monte. Je cherche désespérément des yeux la source lumineuse que l'on mettra en action plus tard afin de me réfugier dès maintenant près d'elle. Donc en fait, c'est lourd de conséquences que vous écrivez quand on essaie d'imaginer pour ceux qui ne connaissent pas la rétinite pigmentaire. C'est voilà, dès que le soleil commence à tomber, enfin à disparaître, que la pénombre commence à arriver, vous cherchiez des points de repère lumineux pour vous mettre dessous de façon à pouvoir continuer une soirée commencée en plein jour et qui pourrait vite tourner au cauchemar si vous n'avez pas de points lumineux.
Non, c'était tout à fait ça. Bon, maintenant j'ai quand même encore une fois atteint un certain âge.
C'est différent.
Maintenant, là, je le dis, on le sait,
oui.
De toute façon.
Enfin, bon, vous l'avez quand même vécu pendant de nombreuses années, et vous avez quand même intériorisé tout ça.
Ah,
c'est
oui,
quand
oui.
même...
Ah, oui, oui, oui. Alors, si on prend cette histoire de repas en plein air, effectivement, la première chose que je faisais, il était peut-être 6h ou 7h du soir, c'est regarder dans la disposition des tables quel était l'endroit qui serait le plus éclairé après.
Oui, non, c'est quand même...
C'est
toute une... il faut réfléchir avant, enfin, c'est toute une anticipation, puis en fait, vous ne profitez pas complètement du repas parce que vous êtes en train de penser à pour quand il fera moins jour. Donc, ça vous gâche un peu quand même le repas.
Ça gâchait. Puis je parle à l'imparfait, mais en même temps, ça permettait de se mentaliser, de se préparer au pire. Et quand on se prépare au pire dans la vie, on ne peut être que surpris
par
avantageusement.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Et ça, c'est quelque chose que je continue à faire. Chaque fois, j'envisage le pire.
D'accord.
Donc, tu es plus libre après.
Mais Monsieur Fraissinet, nous arrivons au terme de notre émission déjà. C'est toujours trop court, cette émission. Une demi-heure, c'est pas assez, n'est-ce pas, Roger? Il me fait signe et je vais devoir donc terminer. Donc, il me reste une petite minute. Je voudrais juste lire, pas le passage que j'avais prévu, parce que nous n'avons pas le temps, mais juste le fait que c'est une maladie qui est invisible pour les autres. Donc, le passage, c'est « Il faut dire qu'aucun signe extérieur ne laissait présager un handicap visuel. Je ne porte pas de lunettes et mes yeux présentaient un aspect normal. Ce côté invisible du handicap visuel dû à la rétinite pigmentaire ajoute à la complexité du problème posé par cette maladie. Si on ne dit rien, on ne risque pas d'être compris et a fortiori excusé pour ses maladresses. Et si on s'explique, on s'exclut du groupe des normaux, on n'est plus des leurs. » Donc je veux dire, on va terminer par la rétinite pigmentaire. C'est une maladie qui ne se voit pas, mais... qui est malheureusement très présente et très perturbante pour celui qui la porte, et que s'il ne le dit pas et aux autres, bon, bah forcément on n'est pas compris, mais si on le dit, bah c'est aussi s'exclure. Enfin, on peut le sentir comme ça. Enfin, en tout cas, on peut le...
Vous l'exprimez très très bien, le problème de la rétinite pigmentaire. Je voudrais quand même te dire que le livre n'est pas que le livre de quelqu'un qui a une rétinite pigmentaire.
Non,
il y a des passages qui sont tout à fait intéressants sur le milieu associatif, même anecdotiques sur le tour d'Europe, la façon de développer une association qui en fait est une entreprise.
Oui, tout à fait. C'est vous qui avez été le pionnier, presque un des pionniers de Retina France, hein, que vous avez donc présidé de 85 à 2004. Donc, je vais rappeler le titre de votre livre. Donc, « Une histoire de présidence au pays de la malvoyance » par Jean-Jacques Fraissinet, disponible dans toutes les librairies. Vous le commandez dans toutes les librairies de Toulouse et même de Pibrac. Et voilà, et vous le recevrez rapidement. Merci infiniment, Monsieur Fraissinet, d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup Claire, de m'avoir invité.
À bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine pour nous. Radio Occitanie, et je vous laisse en compagnie de Bénédicte et le Flash culturel.
Occitanie de Zours.